19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière émission de la semaine. Et oui, veille de week-end, oblige, on ce vendredi 29 novembre 2019. Et vous êtes à l'écoute de Beurre. Justement, dans cette émission au menu, il y aura du football encore avec le Qatar et la diplomatie. Ça promet, ça va être assez chaud. De la Ligue Europa avec Saint-Etienne face à la Gantoise hier soir. Sans oublier la Ligue 1 Conforama, la Ligue des Talents avec un alléchant Monaco. Paris Saint-Germain, mais aussi l'Olympique de Marseille qui rencontrera ce soir l'équipe, j'allais dire Reims, mais non, c'est Brest, hein, c'est le stade brestois. Le 01 53 48 3000 pour réagir avec nous, chères auditrices et auditeurs, mais aussi sur la twittosphère. On est ensemble et c'est parti, go Time Sport.
Time Sport.
Allez, ce soir, on a assez chaud. Une grosse équipe pour m'accompagner durant une heure dans votre quotidienne sportive qui est Time Sport. Avec moi, autour de la table, Yacine Bouali. Comment ça va, Yacine ?
Ça va. Si tout le monde va bien, tout va bien.
Ok, il est toujours serein, Yacine. C'est ça, demain, il y a la CIF Cup qui nous attend, 2019, avec le Secours Islamique, on le rappelle, du côté de Nanterre. C'est bien ça, le coach Tollet ? Il sera ?
Moi, je n'ai pas touché, mes primes, je ne viens pas.
Ok. Voilà, ok. Bon, eh ben on essaiera de te les faire toucher demain. En tout cas, le message est passé. Le coach Tollet, comment ça va ?
Écoute, j'étais avec Esther et Yannick, pas loin de là. Là, on parlait de relations humaines. Ça m'a mis du baume au cœur. Donc, content d'être là.
Ah, ben nous aussi. Ouais. Et tu es prêt pour demain ?
Bien sûr que je suis prêt.
On verra bien, en tout cas.
Tu as touché tes primes.
Ouais.
Je suis prêt pour demain. Après, les primes, on en reparlera à la presse après le tournoi.
Pourquoi pas ?
On a tout compris comment
ça. Vivien Boimanga sera avec nous dans cette émission. Mais il est avec nous à Matador. Et demain, ça promet. Joga Bonito, on l'espère en tout cas. C'est Simon Balachev. Comment ça va, Simon ?
Buenas noches. Ça va très bien. Écoute, moi, j'ai pas reçu de prime non plus. Oui. Par contre, le sportif prime avant tout. Alors, je suis prêt pour demain.
Et là, c'est chaud. Abdel, nous, on n'a rien reçu de toi, Abdel. On sait même pas si tu viens, si tu viens pas. Non, pourtant, l'invitation, elle a été envoyée.
Je pourrais pas être là, mais c'est avec regret, mais j'aurais bien aimé
coacher
avec l'équipe.
Ouais. Non, attends, tu peux venir. Allez.
J'ai déjà des obligations de coacher ailleurs, mais c'est dommage.
Ouais. Il est sollicité.
Allez, le plaisir d'être Kamel Nkaira nous fait le plaisir de nous accompagner dans cette émission. Comment ça va, Kamel ? Et je crois qu'il sera Kamel.
Oui, j'y serai demain. Oui, soit en tant coach ou.
Ouais. C'est Kamel qu'il faut voir pour les primes. Voilà. C'est ça.
C'est un grand plaisir de parler de vous. Mais moi, j'ai pas eu de prime, mais j'ai eu des bons d'achat pour le Black Friday, tu vois.
Super. Oui, c'est aujourd'hui en plus.
On découvre les coulisses de cette maison. Ça fait plaisir.
En tout cas, un grand bonsoir à nos auditrices et nos auditeurs.
Et faut pas les oublier. Allez, on commence cette émission.
Quel baratineur ce Kamel.
Time Sport, le ras-le-bol.
Ça commence fort, hein, le coach Tollet. L'émir du Qatar est en rogne. Et oui, la mise en examen de Nasser Al-Khelaifi pourrait faire perdre 2 milliards d'euros à la France. Selon les informations de la tribune, le Qatar est tout près de renoncer à une commande de 490 véhicules blindés passés au constructeur français Nexter, dont la valeur équivaut à environ 2 milliards d'euros. La raison, l'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamed Al Thani ne digérerait pas, toujours la mise en examen du président parisien Nasser Al-Khelaifi pour corruption active par le juge Renaud Van Ruybeek en mai dernier. Drôle de jeu ou poker monteur, histoire de lever la pression d'une certaine manière exercée autour du président du club de la capitale Nasser Al-Khelaifi. Simon, on t'écoute.
C'est de la diplomatie, là. On est au-delà du football, on est au-delà de plein de choses. On est en pleine diplomatie et dans tout ça, le PSG n'est qu'un outil utilisé par le Qatar en France. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est de bonne guerre diplomatique. Ce que fait l'émir du Qatar, c'est tout à fait logique. Après, moi, enfin personnellement, j'aurais envie de lui rappeler à ce cher Al Thani que en France, on a une justice qu'on essaye d'avoir indépendante, qu'on essaye de laisser travailler. Voilà, Monsieur Nasser Al-Khelaifi est mis en examen. La justice doit faire son travail. Point barre. Alors, si l'intégrité a un prix et que c'est 2 milliards, eh bien, ma foi, faut payer ce prix.
Ouais, on en avait parlé dans cette émission avec notre consultant Achille Kamel. Réaction concernant Nasser Al-Khelaifi et aussi le Qatar.
C'est vrai, je suis d'accord avec Simon. C'est vrai qu'en France, il y a une justice, hein, surtout pour les hommes politiques. Big up à Balkany, hein, qui lui a toujours été jugé, etc. Hein,
j'ai dit qu'on essaye d'avoir...
Avec certains hommes politiques, on n'essaye même pas, on n'y arrive, on tente même pas. Mais moi, je veux dire, c'est Moi, je trouve que c'est bien, parce qu'il y a un moment donné, la France avait toujours s'ériger en donneur de leçons, hein, en donneur de leçons des droits de l'homme, etc., parce qu'ils sont encore à l'aube de 1789. Hein, ils pensent que, parce qu'ils ont écrit la déclaration des droits de l'homme, mais ils ne l'appliquent jamais. Donc, je veux dire que ça n'a pas empêché récemment Macron d'aller faire le VRP en Chine, alors qu'on sait tout ce qui se passe en Chine avec la communauté musulmane chinoise qui est en train de se faire massacrer, mais personne ne dit rien. Mais bon, on y va quand même. Et quand il s'agit du Qatar, il y a toujours un deux poids deux mesures, d'accord ? Donc ils y vont. Et là, moi je suis d'accord avec le Qatar, parce que le Qatar, on n'arrête pas de leur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on n'arrête pas de leur taper sur les mains, etc. Mais devant, ça joue les coqs en pâte, et par derrière, ça passe par les couloirs sombres de la République pour aller négocier des contrats d'armement, etc., et vendent des armes, et justement vendent des armes pour créer des guerres. Donc je pense quand même 490 blindés, c'est ça, si je dis pas de bêtises.
Voitures 490 blindés, véhicules blindés.
490 voitures blindées pour un petit pays comme le Qatar, il va y avoir des embouteillages. Donc je veux dire qu'à un moment donné, la France, elle se donne donneuse de leçons, mais c'est quand même le troisième pays alors, qui vend le plus d'armes. Et donc à un moment donné, ils sont bien contents d'aller dans ces pays-là comme l'Arabie Saoudite, la Chine, etc., et donner des leçons à d'autres pays. Mais quand ils vont dans ces pays-là, ils se taisent, ils font. Je terminerai sur ça. Toutes ces premières dames toutes ces premières dames qui vont au Qatar et qui vont en Arabie Saoudite et qui mettent le voile. Et ici, ça joue les coques avec le voile, mais là-bas, ça met le voile.
On reste sur le football, Kamel.
Alors, sur Nasser Al Khelaïfi,
on n'en parlerait pas.
Nasser, on va remettre les choses dans leur contexte. Je suis d'accord avec toi sur l'armement, les leçons, etc.
Ouais.
Nasser Al Khelaïfi, il est pris dans une histoire que la justice doit examiner.
Corruption active, messieurs.
Qu'est-ce qu'on fait, Kamel? Parce qu'on ne doit pas donner de leçons, je ne sais quoi, à ces pia, parce qu'on leur vend des armes et tout, ce qui n'est pas Jojo, je suis d'accord avec toi, et ben on le laisse passer, on dit rien, on le laisse faire avancer ses bisbilles.
Tu étais complètement noyé. Hein.
On est d'accord, Simon. Parce qu'il est seulement mis en examen, peut-être faire de la corruption.
Je réponds à Simon.
Ouais.
C'est bien beau, d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont piqué dans la caisse, style Balkany, et la justice n'a rien fait. Donc avant d'aller attaquer les autres, faisons les autres. On parle de football, on parle du Paris Saint-Germain,
là, messieurs. Quand même. Yacine.
Là aujourd'hui,
on aura Abdel aussi.
Le Qatar, c'est très grave. C'est un fait très grave. S'ils arrivent à faire pression sur l'État français, donc ça devient une république bananière.
Oui, c'est ça, exactement.
Voilà. Alors, donc là, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, Nasser Khelaïfi, il est innocent. La présomption d'innocence.
Mise en examen.
Donc après, il y a enquête. Qui va suivre et qui va faire son travail. Et c'est strictement dans le cadre sportif. Donc après, ce qu'il y a eu, si demain il y a la justice, elle a des preuves, qu'elle fasse son travail. Mais aujourd'hui, quand on rentre dans les,
elle le fait.
Vous me dites que la France va perdre un contrat de 470 ou 75 voitures blindées.
490.
Ça fait une affaire d'État. Bah, je trouve, là, on va revenir aux républiques bananières, tout simplement. C'est même un fait très très grave. Moi, je trouve pas. Je ne comprends aucun sens. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est juste une information.
Bien sûr.
D'ailleurs, l'État français apparemment a délégué la ministre
des armées, Florence Parly, en début de semaine, pour tenter de sauver peut-être ce juteux contrat capital pour le groupe français d'armement.
Mais maintenant, quelqu'un a un problème avec la justice française.
Mais non, c'est la justice dont met la pression sur l'État français.
Balkany, comme Kamel l'a dit, il va faire intervenir les Arméniens.
Quand même.
Jusqu'à preuve du contraire, Nasser Khelaïfi, il est innocent, il n'y a rien qui est prouvé contre lui. La justice, elle fera son travail.
Alors,
après, si la France devrait perdre 475 voitures blindées, simplement.
Ouais. Abdel, Simon.
Ouais, non, je suis un peu d'accord avec Yacine, ce qu'il dit. Ça vient dans le cadre, c'est pas dans le cadre du sportif, l'intervention de.
Alors, quelles conséquences pour le Paris Saint-Germain, justement? Toi qui connais si bien le club de la capitale, peut-être.
Je sais pas s'il y a une grande conséquence, comme il a dit pour l'instant.
Ah,
et
quand même.
On va pas s'avancer parce que.
Ouais.
Il n'est pas encore jugé, il a pas. C'est juste.
Ouais, c'est une présomption. C'est une mise en examen. L'enquête, voilà, elle suit son cours. Après, si les Qataris devraient partir de Paris, ils partiront. Et le PSG va survivre.
Vous n'êtes pas en faire.
Le PSG va survivre histoire, avec ou sans les Qataris, tout simplement.
Du côté sportif, il est mis en examen, c'est le président du PSG, voilà, mais ça n'a rien à voir avec les voitures, etc. Si on commence à tout mettre en œuvre pour, entre guillemets, faire du chantage, c'est compliqué.
Exactement.
C'est un peu n'importe quoi pour ma part.
Ouais. Non, mais alors, avant de terminer sur le Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.
Par rapport, après, faut arrêter de se voiler la face, c'est qu'à le dire. Il y a un moment donné, on ne peut pas dire le contraire. Au-delà de cette histoire, il y a un acharnement complet de la France sur le Qatar et sur le PSG via par intermédiaire
du CIO.
La France
est
dans
merci Simon de le rappeler. Quand même, tu peux pas.
Mais
oui, elle a vendu quand même.
Il y a un acharnement sur le Qatar.
Mais non. Alors, on te laisse parler.
Donc, je dis.
Il est mis en examen pour quoi exactement?
Oui, c'était
pour malversation, dans l'obtention des droits télé des Jeux Olympiques.
Exactement.
Par Bein. Oui.
Donc, 2024.
Non,
je pense que c'est.
Ça, on en a pas parlé.
C'est juste un ras-le-bol des Qataris qu'on s'acharne toujours sur le PSG. Si c'est pas ça,
c'est faire.
Alors,
est-ce qu'il l'a fait ou pas?
Tranquillement.
Quand c'est pas ça, c'est le fair play financier. Quand c'est pas le fair play financier, c'est autre chose. Quand c'est autre chose, c'est pas ça.
C'est pas la France qui s'acharne sur le fair play financier. C'est l'UEFA.
Il y a un moment donné.
Ça n'a rien à voir avec la France, quand même.
Mais la France ne défend pas le PSG comme elle devrait le défendre. Les instances, je suis désolé.
Ils ont leurs avocats, quand même.
Il y a eu malversation ou pas?
Non, il y a mise en examen.
Mise en examen pour ça.
Ah oui,
présomption d'innocence.
Mais le problème.
On termine avec toi.
Ça va avoir un impact pas forcément bon pour l'image du Paris Saint-Germain. Déjà qu'on jalouse le Paris Saint-Germain, qu'on cherche.
Voilà, c'est ça.
De manière justifiée.
Cherchons la petite bête. T'as raison.
Donc là forcément.
Mais je comprends pas. On te parle du président.
C'est qui comme.
Il vient de le citer. C'est l'émir du Qatar.
Il est pas là.
C'est lui.
C'est lui qui représente le Paris Saint-Germain en France.
Jalousie par qui?
Non, mais si les mecs
le
c'est
pas en France.
Il n'a pas fait le patron, Nasser.
Mais attendez, pourquoi? C'est marrant, hein, quand c'est Nasser, tout le monde dit c'est une marionnette, et à tous les autres présidents de club.
Merci quand même. Merci messieurs.
Le vrai patron, c'est le président.
Merci Simon. Merci.
C'est tout.
Propriétaire du club, à Bordeaux, propriétaire du club. Donc tous les présidents de Nice, de Bordeaux, de Lyon,
ils ont des marionnettes. Mais non. Il y a personne qui a dit. C'est toi qui as dit.
Merci Simon. Allez, on enchaîne dans cette émission. Place à la Ligue Europa.
Time Sport, la victoire.
Nouveau jeudi noir européen et Bérézina pour les clubs français. Saint-Étienne, la Gantoise, 0 partout. Les Verts disent au revoir à cette fameuse Ligue Europa. Comment expliquer et comment s'expliquer de cette campagne? Eh oui, le coach Tollé. C'était dur quand même.
Ouais, ça fait 10 ans que c'est dur en Ligue Europa. Ça fait 10 ans qu'en France.
Aussi que Saint-Étienne y est habitué.
Ça fait 10 ans qu'en France, on part de la Ligue des Champions alors que t'as qu'une équipe qui peut vraiment la jouer régulièrement. Ça fait. Il y a un moment, faut avoir envie de jouer à une compétition qui, sans cesse de notre niveau, on se rend compte que même lorsqu'on affronte. Simon, ils ont affronté qui Saint-Étienne?
La Gantoise.
Alexandrie. Qui connaissait Alexandrie? On affronte des clubs qu'on n'arrive même pas à battre en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau français, il n'est pas ce qu'il est. Ça fait 10-12 ans que c'est la même chose. Ça fait 10-12 ans que t'as qu'une équipe tous les 3 ans qui arrive à franchir le cap des quarts de finale de la Ligue Europa. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Où en est le niveau français réellement?
Comparé au dessus,
c'est l'européenne qu'on juge.
Et pourtant,
c'est pas lorsqu'on alors, fait les matchs le samedi soir à 20h.
C'est pas faux, Claude.
Il y a eu un quart de finale, il y a eu des demi, une demi-finale, il y a eu une
alors,
finale.
Alors on découvre
Marseille, Lyon,
en 12 ans.
Juste une chose. Juste une chose.
Messieurs, s'il vous plaît.
Les qualifications en Europa League, Coupe de l'UEFA avant, depuis 20 ans. Depuis 20 ans, c'est une finale, une de deux finales pardon, des trois finales avec celle de Marseille, enfin bref, des demi-finales, un top récurrent de 16e de finale, de 8e de finale. Avant ça, beaucoup plus de résultats. Avant quand? Avant 95. Au bout d'un moment, il va falloir regarder les choses
en face. Le Paris Saint-Germain.
Depuis 95 et l'arrêt Bosman, depuis 95 et l'arrêt Bosman, comme la Hollande, comme la Belgique, comme plein de championnats comme ça, eh bien nous si on a périclité sur la scène européenne.
Au bout d'un moment, il faut regarder les choses en face.
On se situe au niveau de ces championnats-là. Alors oui, quand on fait, c'est une mauvaise performance pour Saint-Etienne, une mauvaise performance pour Rennes, parce que Rennes a fait mieux l'année dernière, parce que Saint-Etienne est capable de faire mieux. Après, voilà, faut se rendre compte aujourd'hui qu'un club français affronte un club belge, c'est peut-être pas le même budget, mais c'est au moins le même savoir-faire européen.
Alors, Yacine, on t'écoute. On aura le temps après la pause aussi pour parler encore de la Ligue Europa.
Suis-moi à résumer sur 20 ans. Moi, je résumerai sur 100 ans. Combien de Français? Bah oui, combien de clubs français?
C'était pas né il y a 100 ans.
Ouais, mais
Yacine, mais comment sur 100 ans?
Oui, on va résumer sur 100 ans. Sur 100, c'est content.
On t'écoute.
Combien de clubs français ont gagné des coupes européennes?
Ça se compte.
Ça se compte sur le bout du doigt. Donc, c'est pas une culture française.
En France.
Les coupes européennes. Et en plus, là, on montre la faiblesse. La faiblesse du scouting français.
Aïe.
La faiblesse du scouting français.
L'une des meilleures
français.
Formations, Yacine, tu étais formation. Là cette semaine.
La preuve.
J'en ai parlé avec toi en plus,
Yacine. Moi, j'ai pas dit que c'était pas la meilleure. Moi, j'ai dit que c'était pas la meilleure. Ne racontez pas de bêtises.
Mais c'est pas moi.
N'énervez
pas, Yacine, s'il vous plaît.
Ouais, alors, aujourd'hui, il faut qu'on comprenne une seule chose. Le football français est malade. Il est malade de qui? De ses dirigeants. Tout simplement. Ils ne savent pas inculquer cette culture d'y aller gagner des coupes européennes. Tout simplement. Le seul qui a su le faire, c'est bien Bernard Tapie.
Ouais, avec Marseille,
à qui on rend hommage ce soir.
Avec
tout
bien,
simplement. Le seul club, quand on voit Marseille qui a gagné la Ligue des Champions, on sent que c'est un club conquérant. Qu'on le veuille ou pas. Cette culture a disparu. Elle n'existe plus, mon cher ami.
Ouais,
tout simplement.
Toi, tu le disais il y a deux semaines
sans
ce qu'il est en train de dire là.
De l'UEFA sans Tapie, finale contre Parme.
Mais imaginez-vous.
Perdu, certes, finale contre Valence, finale contre l'Atlético de Madrid. Après, on a eu quand
même. Marseille a été présente.
On a eu Bordeaux en 96, on a eu Bastia.
Ouais, Saint-Etienne. On n'oublie pas dans les années 80, je crois que t'as dit Saint-Etienne.
Voilà les seules finales.
Bastia aussi.
Il y a eu trois quelques clubs français.
Bastia
et
Monaco.
Monaco aussi.
Avec des champions.
Déjà gagné, il n'existe plus.
Les champions.
Saint-Etienne. Kamel. Abdel.
Et aussi Vivien. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Simon. Et Simon l'a dit. Et l'a dit justement. Pour une fois que je suis d'accord avec lui, je vais le relever. Le championnat français n'est plus au niveau, c'est tout. Au niveau européen, n'est plus.
Et on est champion du monde, Kamel.
Ouais, mais ça veut rien dire, ça.
Champion du monde, Kamel.
Mais oui.
Champion de Kamel. C'est un championnat du monde, Kamel.
Donc ça veut dire que maintenant, ce qui m'énerve, c'est là où on voit tout le mépris du football français quand ils perdent contre des équipes de championnat hongrois, etc., bulgares, belges. Mais ils sont pas au niveau, et c'est la vérité, tu l'as
dit. Vous avez l'impression que les Bulgares, c'est des bras cassés?
Je t'écoute, Kamel.
Je dirais une chose et une dernière chose. Imaginez-vous l'indice de l'UEFA s'il n'y avait pas le Paris Saint-Germain.
Ça ferait mal.
J'aurais plus le droit.
Rapide, on aura le temps, t'inquiète pas.
Tu parlais d'Alexandria tout à l'heure en disant on n'arrive même pas à les battre, c'est qui ces gens-là? Alexandria, c'est en effet un nouveau venu ukrainien sur la scène européenne. Le championnat ukrainien, depuis une dizaine d'années, c'est des performances bien meilleures que les clubs
français. Bien sûr, et de loin.
Merci Simon, vous restez avec nous, on aura la réaction d'Abdel sans oublier Vivien avec nous jusqu'à 20h. Allez, on parlera aussi du Monaco Paris Saint-Germain sans oublier le match de ce soir en Ligue 1, l'Olympique de Marseille qui rencontre le Stade Brestois. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman.
Hey, Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 19h, 20h, toujours avec toute l'équipe de Tam Sport. Je rappelle Simon Balachef, Abdelhamed, le président Kamel El Kaira, Yacine Bouali, le coach Tolé, Vivien Bouimanga. On va s'attarder, on va rester même sur la Ligue Europa avec toi, Vivien. Et aussi, on aura la réaction d'Abdel concernant les Stéphanois. Un mot à dire, parce qu'on t'a pas entendu depuis le début.
Bah, écoute, alors pour reprendre,
Stéphanois, c'est club français.
Tout ce que tout le monde disait, c'est que. Je me demande si peut-être nos dirigeants peut-être manquent d'inspiration, dans le sens où j'ai l'impression qu'en fait on a tendance à toujours faire revenir des anciennes stars entre guillemets qui sont un petit peu cramées, type Mvila, Kabay, etc. Et peut-être c'est
cramé, moi. Ouais,
cramé, c'est une exagération.
Ouais, un petit peu, oui. Oui, j'ai pas le droit, Simon. J'attendais ta réaction, Simon.
Mais je me demande s'il n'y a pas mieux à faire, et c'est peut-être ça.
Réfléchir
à comment. Je suis pas tout à fait d'accord.
Comment relancer le foot français en Europa League?
Il y a plein de clubs.
Moi, j'ai la solution.
Hein. Clubs espagnols ou etc. qui font des beaux parcours.
Moi, j'ai la solution.
En prenant des joueurs qui n'ont pas, qui étaient amenés à être des très grands et qui ne l'ont pas finalement été. Et voilà, et ils font très bien jouer ces joueurs-là. Donc non, tu peux reprendre ces joueurs-là. Il y a pas de.
Ouais, ça pose de problème. Reprendre un Villa ou. Moi, c'est pas mon. Il y a d'autres pistes.
Est-ce qu'il y a pas d'autres pistes?
Il faut ramener de très bons joueurs, c'est un joueur français qui connaît le championnat de France. Tu le fais revenir en France.
Villa aujourd'hui, il ramène rien de plus au football
mais
français.
Mais je pense que vous savez, c'est absolument quoi moi, le problème, j'ai toujours dit, c'est la frilosité des entraîneurs de Ligue 1. Il y a un moment donné, ils ont peur de leurs joueurs. C'est-à-dire, c'est les joueurs qui ont pris le pouvoir, et des joueurs moyens. Je ne parle pas des joueurs comme Neymar, etc. Je parle de joueurs très très moyens qui ont pris le pouvoir. Ça veut dire. En Europa League, si vous voyez, sur, par exemple, Rennes, les matchs qu'ils ont fait, un match, deux matchs, eh ben, pourquoi on ne fait pas jouer des jeunes du centre de formation?
Exactement.
Des
jeunes, etc. Bien dit, mon ami.
Eux, ils vont avoir faim.
Bien dit.
Et c'est une façon de les intégrer dans leur faire goûter la
tout en sachant qu'on ne dépasse pas les premiers
voilà,
tours.
Voilà, de toute façon, avec.
Alors, il faut leur donner la chance de jouer.
Autant leur donner la chance. Et là, mais non, les entraîneurs français, ils ont peur de leurs joueurs.
Rennes a fait jouer plein de jeunes joueurs, et notamment plein de jeunes joueurs du centre de formation.
Abdel, on l'écoute. On termine avec toi.
Je pense qu'il y a un manque d'envie quand ils vont jouer les compétitions, ça, depuis pas mal d'années. Après, il y a différentes solutions. C'est vrai que faire jouer les jeunes, ils pourraient. Est-ce que ça donnerait de meilleurs résultats ou est-ce que...
Ça serait pas pire, en tout cas, je suis désolé.
Ouais, non, mais c'est possible. Hein. Après, est-ce que la formation, elle est assez bonne, elle est assez compétente pour aller jouer directement?
Ah, mon cher Abdel, hein, je te rappelle qu'avant-hier, tu disais que notre formation française est la meilleure, tu disais.
Elle est pas mal, mais après, ça dépend.
Ouais, moi, j'oublie pas. Hein.
Pour jouer en Ligue 1, tu peux, mais est-ce que pour jouer directement en Europe...
Pourquoi ça joue la finale en Europe que tu perdes contre...
C'est quoi
le problème?
Jusqu'à preuve du contraire, le championnat français, c'est le 5e ou le 6e au niveau européen.
Tu joues pas une demi-finale de Ligue des Champions contre Bayern de Munich, là. Tu joues les phases de poule contre des équipes de ton niveau.
Il y a trop de problèmes dans le football français.
C'est compliqué.
La victoire du monde, c'est
compliqué pour Abdel.
Moi, je vais le dire, il y a trop de copinage dans le football français.
Alors, Abdel.
On n'arrive pas à se positionner. Tout le monde a un avis divergent, mais si on met des jeunes, on va quand même se plaindre. Si on met des mecs confirmés et que ça gagne pas, on va se plaindre. Après, il y en a qui visent beaucoup le championnat, ils misent tout sur le championnat. Ils pensent qu'ils n'ont pas les armes pour
arriver
en 16e ou en 8e, et après ils disent qu'ils vont s'arrêter là. Donc, c'est compliqué. Mais après, je pense que les coachs, ils ne sont pas assez adaptés pour coacher des équipes qui sont en lice en Coupe d'Europe.
Allez, rapidement, Yacine, on termine.
Je prends l'exemple de Nice.
Ouais. Les Niçois avec Patrick Vieira.
Avec Patrick Vieira, qui sont partis chercher Youssef Attal au championnat de Belgique, même s'il n'a pas fait long feu. Aujourd'hui, on a ramené un joueur qui coûtait rien du tout. Aujourd'hui, Attal, c'est 50, 60 millions. Et quand on voit la qualité de son jeu, eh ben, moi, je dirais un Villa et qu'il peut aller se coucher, mon ami.
Oh non, voilà, quand même. C'est pas. Il n'y a rien à voir.
Oui, monsieur.
Je dirais juste.
On parle de la qualité, si, il y a beaucoup de chance. Mais oui. Pour toi, ça n'a pas de chance.
Champion du monde,
Ils sont même plus que champions du monde. Ils peuvent l'être champions du monde, mon cher ami.
La formation française, elle a 2 étoiles.
Ils ont failli battre l'Allemagne.
Ça leur fait de quoi? Absolument rien du tout.
On verra bien. On verra bien dans une match amicale. T'inquiète pas. On t'enverra. On va t'envoyer là-bas, Simon, avec Yacine. Tu verras. Je te promets.
Mais ce qui est,
je te promets qu'on va leur donner une bonne raclée. Tu peux me faire confiance.
Ce qui est assez énervant, c'est que on mélange tout. Ça veut dire que oui, ils ont été champions du monde, mais là on parle pas d'équipe de France.
De quelle manière ils ont été champions du monde ?
Donc je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter toujours sortir la carte joker. Oui, on est champion du monde.
Mais c'est un fait.
Donc je veux dire,
c'est un résultat de la formation française quand même.
À ce moment-là, tu vas
pas. On parle Saint-Etienne quand même.
Tu t'es matchs en Coupe d'Europe, dire ouais, mais on est champion du monde.
Je vais rappeler à Simon, ils ont été champions du monde avec Mbappé, moitié Camerounais, moitié Algérien.
Mais non, quand même.
Il a été formé en Algérie.
Il n'a pas été formé en Algérie.
C'est la qualité intrinsèque du footballeur.
C'est dans les gènes, Simon, t'inquiète pas. Et les auditeurs aussi, Kamel.
Ce qui est assez antinomique dans le discours des dirigeants français, et des journalistes, et surtout des dirigeants français, c'est qu'ils s'extasent sur l'Ajax d'Amsterdam, qui va loin en Champions League parce qu'ils font jouer des jeunes. Et eux-mêmes, ils ont des jeunes qui ne font pas jouer.
Exactement.
Et
le problème,
qu'est-ce qui se passe ? On en parlera tout à l'heure. Ouais. Ils ne les font pas jouer. Et après, ils pleurent comme des crocodiles parce que les jeunes joueurs ne signent pas de contrat pro.
Merci, Kamel. On avance dans cette émission. Merci.
Ah, je suis d'accord.
Time Sport. Le duel.
Activité, j'ai besoin. Le coach Tolé ne m'aurait pas sévèrement comme ça. Ça me fait rappeler Rude Gullit 89 du côté de San Siro. Giuseppe Meazza, hein, ça fait sourire aussi.
Grosse équipe, Bilal,
face à Diego Armando Maradona, le Napoli. Ce dimanche, dans le cadre de cette fameuse 15e journée, Yacine, de Ligue 1 Conforama, le Paris Saint-Germain, premier du classement, affrontera l'AS Monaco, 14e. Et du côté du stade, lui, de coup d'envoi à 21h, on le rappelle. Considérez-vous la réception justement du PSG par les Monégasques comme un match au bonus, à part vu la supériorité, oui, des on va dire de leur adversaire qui est le Paris Saint-Germain.
Match bonus pour qui ?
Pour Monaco.
Ce serait triste quand même de dire que Monaco a un match bonus face au Paris Saint-Germain.
Après, on en est là.
La réalité, c'est que Monaco est le meilleur effectif de France si tu enlèves le Paris Saint-Germain. La réalité, c'est que offensivement et au milieu du terrain, ils sont capables de rivaliser. Et la réalité, c'est que Monaco peut prendre une pilule parce que derrière, c'est extrêmement compliqué. Maintenant, sur un match, si le PSG est un petit peu moins bien et que quand je vois l'animation offensive de Monaco, ils sont dans un bon jour, tout peut arriver.
Il se plaint alors qu'il touche le ballon de la main, mais
par contre c'est un vrai handicap parce que c'est clairement le joueur qui fait la différence à Monaco.
C'est dommage.
Je crois que Golovin sera dans le coup là. Pas un match bonus, j'espère pour eux que ça peut être un match pour les relancer parce qu'ils en ont clairement les moyens et ils ont le potentiel pour. Maintenant, quand tu vois la force quand même de frappe du Paris Saint-Germain et que tu vois ce qu'a présenté Monaco défensivement, bon, il y a de quoi quand même s'inquiéter pour les Monégasques.
Vivien, toi.
Mais ça va être intéressant si Paris est dans un bon état d'esprit.
Paris a tout pour se
mettre à l'abri sur ce match-là. Après, mais ça va être, c'est un match intéressant, je trouve, parce que justement, est-ce que Monaco va mettre de l'intensité ? Quelles vont être les intentions monégasques ?
J'espère.
C'est ce qui va être le plus important à voir.
Ils vont mettre l'intensité à jouer 11 derrière.
Kamel.
Alors, si je peux me permettre, moi, alors, déjà, le plus content de tout Monaco, ça va être le trésorier de Monaco, parce qu'ils vont remplir enfin leur stade avec l'arrivée de PSG.
Je ne sais pas.
Ça va déjà remplir normalement. Alors moi je dirais une chose, c'est symptomatique de la mentalité des clubs français en Ligue Europa. C'est aussi simple. C'est-à-dire tous les clubs qui reçoivent ou qui jouent contre PSG, mis à part Reims, je crois qu'il a gagné, hein, si je ne dis pas de bêtises.
Reims, Rennes, Dijon.
Tous ces clubs, comment Monaco, qui est quand même un grand club français, hein, si on peut dire, avec l'effectif qu'ils ont, tu l'as dit, coach, ils ont un des meilleurs effectifs de France en retirant le PSG. Déjà, j'ai entendu la conférence de presse de Jardim. Avant de commencer le match, ils s'avouent vaincus. Ils nous font une Marseille. Voilà. Donc déjà, comment voulez-vous avec cette...
T'inquiète pas, on aura Marseille aussi dans cette émission.
Non, mais tout le monde m'avait fustigé par rapport à ça. J'avais dit, quand tu rentres battu déjà, un sportif rentre battu, que ça soit... peu importe le sport qu'il fait, déjà, il a perdu 80% de sa motivation. Donc là, déjà, Monaco, au lieu de se dire, oui, on a l'effectif, on va faire un bon match, ça va être une belle soirée, belle rencontre, rien, là, non. Ouais. On risque peut-être de trucs. Mais de toute façon, c'est ça le problème. C'est la mentalité. C'est des moutons. Ils vont à l'abattoir.
Ouais, quel visage des Parisiens vont-ils présenter après
c'est dur avec Jardim.
Dimanche soir, face au Monégasque. Et on aura Simon.
C'est Paris qui décide.
Alors.
S'ils ont envie de laisser des brèches, ils vont en laisser. S'ils ont envie de tout écraser sur leur passage, ils vont le faire.
Comme ils l'ont fait contre des gens.
De vrais arguments.
Ils ont laissé des gens.
Tu me dis ça, mais.
Bah, ils ont laissé deux brèches.
C'est dans l'exemple que je donne, voilà.
Il dit pas autre chose. Il dit que justement, ça dépend de quelle mentalité est.
C'est vrai, mais Monaco a quand même de vrais arguments.
Mais franchement, je souhaite que le match il soit plaisant, soit un beau match à regarder. Monaco, c'est pas mal, hein, franchement, même si il y a eu du moins bon les dernières années. Ils ont fait un très bon recrutement, très intelligent. Maintenant, derrière, comme il a dit Claude, c'est super compliqué, mais ça peut laisser une belle affiche ce week-end.
Justement, il y a quelques saisons, Monaco luttait face au Paris Saint-Germain aujourd'hui et n'en est plus capable. Et pourquoi, Simon?
Pourquoi non, parce que Jardim peut-être arrive à au bout de son système, ça arrive et ça n'enlève rien au talent de cet entraîneur-là. Hein. C'est parfois des entraîneurs qui restent longtemps ou qui ont de longs passages dans un club, au bout d'un moment arrivent à finissent par user la machine, quoi. La méthode ne fonctionne plus.
Depuis un an, il n'a rien proposé.
Peut-être que c'est ça, tout simplement. Je pense toujours à Galtier avec Saint-Étienne. On voit aujourd'hui à Galtier, à Lille, que c'est quand même un très bon entraîneur. À Saint-Étienne, à la fin, ça ne fonctionnait plus. Pas parce que Galtier était mauvais, pas parce que les joueurs étaient mauvais, parce que la méthode Galtier à Saint-Etienne s'était émoussée. Fin de cycle. Peut-être que Jardim en est là. Parce que honnêtement, je suis d'accord avec Claude, quand tu regardes l'effectif intrinsèque de l'AS Monaco, oui, non, ils ne sont pas à leur place en étant la 14e place. Sûr. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà.
Ouais, mais
donc,
j'ajouterai le modèle économique de Monaco. Ils ont perdu énormément de joueurs. Hein. C'est pas la même équipe qui a été championne de France en 2017.
Aussi, mais ils se sont refaits par rapport à l'année dernière.
Mais je veux dire, ce sont d'autres joueurs. Donc dire qu'ils sont en fin de stick, tu vois, c'est là où s'ils avaient le même effectif, tu peux entendre, tu es dans le vestiaire, tu entends le même discours, il y a un moment, ça fatigue. Là, quand tu regardes, il reste plus personne.
Mais
Claude, mais après, non, les gars, moi, je suis pas d'accord avec vous, c'est une question de mentalité. Dans ton effectif, tu as Golovin, tu as Slimani, tu as Ben Yedder.
Oui, mais je suis d'accord.
Si t'as pas des prétentions,
c'est une usine.
Si t'as pas des prétentions d'aller gagner ou d'aller faire quelque chose contre le PSG dans une pipe, arrêtez le football. Allez faire de la danse.
Mais ça a été le bordel pendant 2 ans à Monaco. Il y a eu 50 joueurs qui sont partis, qui sont arrivés.
Merci de le rappeler.
Le plus grand problème du football français, ce sont les coachs.
Ah, oui, c'est ça.
Ce sont les coachs. Les coachs sont de moindre qualité, y compris Jardim, qui depuis 2 ans, il fait du surplace. Il n'arrive pas à se renouveler. Et on a l'impression, quand on voit Monaco jouer, on a l'impression qu'ils tournent. Ils n'ont pas envie. Il n'y a aucune envie. Il n'y a pas de grinta. Ouais. Quand tu joues des clubs comme le PSG qui domine,
tu dois l'avoir tout le temps.
Qui écrase le championnat de France, quand tu joues face, tu dois jouer le match de ta vie. Bah, on ne le sent pas en France.
Il y en a qui le font, il y en a.
Et là, ils subissent et ils sont en attente. Oui. Et quand tu es en attente de faire une machine de guerre, Mbappé, Neymar, Draxler, Cavani et Icardi, tu vas prendre tout. Là où je vais rejoindre notre ami
Abdel,
là c'est vraiment la machine, elle tourne et tous les clubs ils prendraient au minimum 10.
Avant que ça m'échappe, avant que ça m'échappe pour mes auditeurs, juste vous dire,
ça t'échappe pas, vas-y.
Ça fait quoi la mentalité quand vous voyez en Coupe de France les petits clubs amateurs? Oui, mais c'est ça la mentalité, qui joue contre des D3, des D4, des Ligue 1, des Ligue 2. Moi je l'ai vécu. Et quand vous êtes dans le vestiaire, vous dites pas on va se faire défoncer, vous dites les gars c'est le match de notre vie.
Exactement.
Faisons-nous plaisir.
Non mais on a pas dit le contraire, mais c'est une usine à Monaco.
Non mais c'est pas pour toi, parce que vous avez, mais je dis la mentalité des clubs français. C'est-à-dire que vous dites waouh les gars, c'est un plaisir de jouer contre Neymar, Mbappé, Thiago Silva et tout ça, c'est incroyable. Donc là ils sont seuls, ils y vont comme
À propos de ça, ça me fait sourire.
Ça
me fait sourire.
Merci Kamel. Simon, on poursuit.
C'est toujours délicieux d'avoir les conférences de presse des équipes en Espagne qui doivent affronter le Barça et le Real.
Non, ils se battent.
Tu crois
qu'ils se battent, les clubs, bien sûr. Ils se battent.
Gagnants que.
Ils se battent. Ils se battent. Et des fois, le Real, ça lui est arrivé, ou le Barça. Il y a des petites écuries.
Chez eux, Paris Saint-Germain en France.
C'est pas comme quand on voit la qualité des Espagnols jouer, ça n'a rien à voir. Et Kamel, d'ailleurs, pour Monaco, je te rajoute, depuis que l'arrivée de Slimani, il leur a ramené cette grinta
qui est
spécifique aux joueurs algériens. Et là, on sent une autre mentalité. Qu'on le veuille ou pas.
Bien sûr,
tout simplement.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
C'est Golovin qui fait la différence.
On l'a compris.
Après, Golovin, c'est pas Bernardo Silva, c'est pas Fabinho. Faut se rappeler quand même quand tu parlais du. Quand on faisait la comparaison avec le Monaco, par exemple, qui enlève le titre.
J'aimerais bien savoir
combien
il a fait, combien de passes décisives, combien il a fait
de Monaco de cette époque-là. Ça n'a rien à voir, en effet, avec le 11 de cette année, qui en effet est talentueux, mais peut-être pas au point de celui de 2017. 2017, c'était une grosse sécurité.
Vous restez avec nous, ils sont toujours assez bouillants jusqu'à la fin. demain jusqu'à 20h ensemble, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, et même à travers l'application, en voiture, en transport ou même à la maison, au chaud, n'est-ce pas le coach Tolé?
Eh oui,
vous nous écoutez bien et on reviendra avec l'Olympique de Marseille de Villas-Boas.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Time Sport avec Bilal Nenman.
Et oui, de retour sur la dernière partie de l'émission qui est Time Sport avec quelques infos. Et oui, on l'a appris, Emery, c'est fini hein, du côté des Gunners d'Arsenal qui ont officialisé vendredi. Et oui, il est content, Abdelhan, on ne sait pas pourquoi, son limogeage du poste d'entraîneur, Unai Emery, arrivé à la tête du club en mai 2018. L'intérim sera assuré par Freddy Lundberg, un joueur tant aimé par Achille et encore Olivier. En attendant l'arrivée d'un coach de renom. On rappelle aussi touché au ligament d'une cheville face à Naples en Ligue des Champions, un but partout. Le milieu de terrain portugais de Liverpool, de Reds, Fabinho, ne jouera plus en 2019.
Brésilien.
J'ai dit portugais. Oui, désolé. Allez, place à la dernière rubrique de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Lui, il est portugais. André Villas-Boas tacle Isaac Liaigi et a abordé mercredi en conférence de presse le cas de l'attaquant de 17 ans qui n'a toujours pas signé pro à l'Olympique de Marseille. Yacine, là, ça pose problème. Le portugais en a profité pour mettre la pression sur son attaquant. D'après vous, pour quelle raison la signature du premier contrat pro d'Isaac Liaigi est-elle toujours au point mort? On t'écoute. Toi qui as l'habitude justement de suivre ces jeunes pépites, comme Nabil Zindik.
Ça doit être un problème entre l'entourage de l'attaquant et le club. C'est comme ça qu'on les force à signer leur contrat. Mais je pense que c'est vraiment... Lui, il doit avoir des contacts très avec de grosses écuries. Je pense que...
Mais est-ce que c'est une façon de faire, hein, Yacine?
C'est la façon de faire dans tous les clubs. Hein. C'est la pression qu'ils mettent sur les joueurs. Hein. Même de grands joueurs ont souffert de ça quand ils n'ont pas voulu renouveler leur contrat. Regarde ce qui s'est passé avec Rabiot. Bah, un joueur, un talent fou, mais bah, aujourd'hui, il s'est perdu à cause des calculs des uns et des autres. Parce que jouer au football aujourd'hui, ça rapporte énormément d'argent. Donc, c'est des problèmes d'entourage. Et c'est dommage parce que c'est le gamin qui trinque. On lui fait pression, on lui fait pas jouer, le gamin il va
se faire. Je rejoins totalement Yacine.
Ouais, Simon.
Isaac Liaigi, il a 17 ans.
Et il est très jeune.
Il a 17 ans. Et sa place actuellement, c'est sur les places des jeux, enfin, c'est sur les terrains des jeunes de l'OM, éventuellement des rentrées avec l'équipe pro s'il en a le niveau et s'il a la mentalité. Mais sa place est sur un terrain. Elle est pas dans les coulisses à devoir gérer des affaires de contrat. Aujourd'hui, ces joueurs se retrouvent face à ça tellement jeunes que ça parasite leur évolution.
Exactement.
Ça se trouve, Isaac Liaigi va s'en arrêter là. Ça va lui briser sa carrière, ce genre de choses.
Il y a des centaines, il y a des milliers de jeunes.
C'est symptomatique de quelque chose qui fonctionne très mal au sein du football.
Alors, si je peux me permettre.
Alors, Kamel.
J'ai failli sortir mes mouchoirs, je ne dirais pas la marque, et pleurer. Mais il y a un moment donné, je ne suis pas d'accord du tout. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe dans tous les clubs. C'est-à-dire, il a fini son contrat aspirant et automatiquement il doit signer un contrat pro, c'est comme ça. Il y a des joueurs qui pleurent parce que les clubs pro ne leur font pas signer des contrats pro, ils se retrouvent à la rue les pauvres parce qu'ils ont pas de contrat pro. Mais dans ce qui se passe, c'est symptomatique du football français. C'est-à-dire c'est des gamins, ils ont 17 ans, ils ont rien fait, ils ont joué seulement en U17 et ils se prennent pour des cadors. Ils veulent signer des contrats à 10 chiffres. Leur agent, parce qu'ils vont prendre une belle commission, ils leur font miroiter des sommes, etc., etc. Et à l'arrivée, le gamin, il va aller signer en Angleterre dans un club au fin fond de la Mersey. Il va jamais jouer et il aura touché 30 000, 40 000, 50 000 euros de plus. C'est totalement absurde. Je dis, s'il avait eu un agent intelligent, l'OM,
c'est on parle des actes, il a dit, on le rappelle.
L'OM, c'est le club idoine. Il n'y a pas d'attaquant performant au point, c'est pas le PSG. Il n'y a pas Icardi, il n'y a pas Cavani, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Neymar. Donc, tu signes ton premier contrat pro à 3 ans, ça t'engage à rien. Fais une, deux saisons à Marseille, tu vas jouer parce qu'il y a de la place. Et après, tu signeras un contrat mirobolant quand tu auras des gens, eux, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, la crémière. Donc, à un moment donné,
il rêve un peu.
des joueurs.
Ils sont jeunes quand même, ils ont le droit.
Il l'a voulu. Mais parce alors, que son entourage, c'est lui qui l'a pris.
Merci Kamel, Abdel, Livien, Kotetolé.
Il a 17 ans, c'est quelqu'un sous influence, c'est un adolescent.
C'est un responsable de ça.
C'est un enfant, il est même pas majeur.
Le cas actuel là, c'est que c'est un problème d'entourage.
Partout. Pour toi, c'est l'entourage, Kamel le posait la question.
On va prendre juste l'exemple de Mbappé. Qui a une cellule familiale très bien structurée. Regarde là où il est né aujourd'hui. Ouais. Ce gamin-là a 17 ans. La responsabilité est partagée entre la famille et le club. Parce que le club aussi aurait pu le protéger dès quand on voit un joueur avec un grand talent. Parce que ça se voit quand même.
On est mal entouré après, tu sais pas tout ce qui se passe.
T'as 17 ans et t'as vraiment du talent. Quand t'as le Real de Madrid, quand tu as le Barça, quand tu as le Bayern de Munich, comment tu veux que Marseille puisse lutter? Comment tu veux que lutter? Mais c'est ça.
Ils peuvent le faire.
Tu parles d'un agent intelligent. Ouais. Je pense à cet âge-là.
Merci,
c'est les parents qui devraient prendre en charge leur gamin.
Allez, le coach Tolé et Abdel aussi, et Vivien.
Simon l'a bien résumé. Ouais. C'est l'image du football aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parlait des années 90 à l'époque. Les joueurs restaient 5-6 ans. Ils partaient à 23 ans à l'étranger. C'était normal. Maintenant, tu as des joueurs de 15 ans de l'AS Monaco qui signent pour 10-15 millions à Manchester. C'est une triste réalité. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, économiquement, on ne peut pas lutter avec les gros clubs. Mais si on en est là à lutter, mais je suis d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, Kamel, mais si on en est là à lutter, c'est pourquoi? Parce que tu as les grosses écuries derrière, parce que tu as de l'argent, parce que tu as de l'argent à se faire. Il en a rien à foutre, le mec, de se dire ah ouais, mais il va jouer 2 ans, il va partir. J'aimerais
peut-être
qu'il réagisse comme toi, mais il s'en fout.
Kamel réagit avec cette orage.
Il en a rien à foutre de la carrière du joueur. Tout ce qu'il veut, c'est que le joueur lui rapporte quelque chose financièrement. Alors que je suis d'accord avec toi.
On écoute, s'il vous plaît, Abdel. On dit tous la même chose.
C'est un super joueur, il a un potentiel énorme.
On l'écoute, merci le coach Tolé.
Potentiel des joueurs.
Merci. Abdel, Vivien.
Il joue à 17 ans.
Merci le coach Tolé. Merci et t'excite pas. Reste avec nous, s'il te plaît.
Maintenant, il n'y a peut-être plus d'envie, comme avant, de rester dans son club formateur, de vouloir remporter des choses et de jouer des matchs.
Non, mais c'est pas une question d'envie, c'est de la cupidité. C'est de l'argent.
C'est tout. L'argent, ça rend compte, mais le fait de ne pas avoir ce truc-là. L'envie de jouer avec son club, ça rentre aussi en compte. D'accord, ça c'est.
Il a envie de jouer,
on le laisse terminer.
S'il avait envie de jouer, c'est à Marseille.
Non, mais il a envie de jouer, il perd pas les
mecs. Il a envie de jouer.
Merci, messieurs.
Il peut toujours avoir des bonnes surprises. C'est des marchandises, les joueurs.
Attendez.
Ça, c'est une réalité.
Il peut toujours avoir des bonnes surprises.
Je suis d'accord avec toi.
On en parle des cas qui sont là à dire oui, ils signent pas pro dans leur club actuel, etc. Et ensuite. C'est des flops, ça se trouve que pour ce cas-là, il va signer.
Tu te rends compte
que tu parles d'un tas d'enfants, parce que jusqu'à 17 ans, tout ça, t'es un enfant, t'es un adolescent, t'es une jeune personne.
Jusqu'à 20 ans même.
Tout un tas d'enfants, et tu dis, il peut y avoir des surprises. Le football aujourd'hui se base sur il peut y avoir des surprises, et les autres, poubelle.
Bah oui,
C'est ça.
Face à Brest plutôt, l'Olympique de Marseille.
Non, mais c'est le problème du foot de haut niveau, enfin même du sport. T'as beaucoup de potentiel comme ça qui sont exploités, des 15, ça, 16, 17, et t'as tous ces grands clubs, donc avec tous ces agents véreux, c'est compliqué.
Attends, il y a un moment donné où j'aimerais.
Moi, je pensais justement les mauvais.
Il y a un moment donné. On va arrêter de stigmatiser les agents.
Exactement.
C'est de la faute des joueurs.
Il faut arrêter de stigmatiser toujours les agents.
Vous comprenez le français ou pas? C'est global.
Non, on l'a fait souvent. Il y a un moment donné,
le joueur. Les joueurs doivent se poser parce que à un moment donné c'est le but, c'est on lui dit tu vas gagner des millions à être sur le banc, et à un moment donné ils doivent se dire écoutez, moi j'ai un plan de carrière, mon plan de carrière c'est de jouer, donc si lui il veut pas jouer c'est pourquoi, parce que les joueurs ils sont occupés,
mais ça il y en a très peu qui jouent, mais il y en a très peu,
donc Isaac Liadji 17 ans est responsable,
oui il a une forme de responsabilité
à 17 ans.
Oui,
À 17 ans.
Oui, à 17 ans, même à 16 ans.
Ouais, mais très peu sont matures comme sujet.
C'est des tomates, c'est des pommes de terre, les joueurs.
Oh, quand même pas,
Gauthier Coutelet. Combien de joueurs maîtrisent leur marché de transfert? Combien? T'en as 3-4 dans le monde, maximum.
3-4. Aujourd'hui, ne maîtrise rien du tout.
T'as que Messi.
Ronaldo ne maîtrise rien.
Je reste avec nous, Gauthier Coutelet, on ne veut pas.
Messi, t'as Ronaldo. Même Neymar, il ne maîtrise pas, on n'en parle pas assez. Même Neymar ne maîtrise pas.
Et on ne le dit pas. Il a maîtrisé son arrivée au PSG.
Il a 17 ans, il est en France.
Mais tu peux pas dire ça, si interdit, arrête.
Si à 17 ans, tu joues, tu t'entraînes à l'OM, tu es au centre de formation de l'OM, et on te propose un contrat pro, et tu refuses de le signer, c'est que t'as un problème
mais
dans
c'est
ta
pas
tête.
Lui qui refuse,
faire un
c'est
mauvais choix. Il refuse pas, Kamel.
Il refuse pas, ça.
C'est son agent.
C'est qui qui a la signature sur son contrat?
La réalité, bien, c'est qu'ils se sont rapprochés de ce que veut l'entourage d'Isaac Liadji. Le problème, c'est que, et Marseille a tout à fait raison aussi, c'est qu'on va pas surpayer des joueurs alors qu'ils ont un démontré. Malheureusement, il fait une bonne Coupe du Monde avec les U17 et malheureusement, il y a des grosses écuries qui sont là et qui
attendent. Malheureusement, il risque de partir.
Pourquoi pas? Il va partir.
Mais beaucoup de cas comme lui, ils sont partis, ils n'ont rien fait.
Merci,
Kamel. C'est le gamin du PSG là qui a été signé par qui est allé du Barça au PSG cet été, Xavi Simon. Il a quel âge?
Il a 11 ans.
C'est terrible. On en a parlé dans l'équipe. Il y a eu des reportages.
C'est le confrère de l'équipe.
Non, enfant. Alors peut-être qu'à 11 ans il est déjà responsable, Kamel, je sais pas.
Ils font les fractions, ils sont en 3ème.
Encore une comme ça, je m'esclave à la folie.
Allez, ça va.
Kamel, à partir de quel âge?
La pression, Simon.
La loi,
bien, tu t'arrêtes quand même.
T'es responsable juridiquement à quel âge? Mais ceux qui savent.
Ça a 13 ans alors.
Kamel, tu es bien d'accord avec moi?
T'as 17 ans, tu vas tuer quelqu'un? Tu n'étais pas responsable?
Kamel,
je vous pose la question à Simon aussi.
Kamel, merci, on est dans le sport, Kamel. Kamel, on est dans le sport. Allez, on va faire retomber la pression. Il nous reste une minute. Pronostic. Ouais. On n'a plus de temps pour Kamel. On n'a plus de temps pour toi, Yacine.
Marseille-Brest
ce soir.
Brest,
ouais. Avec combien?
1-0.
1-0 pour Yacine Boalé. Merci à toi. Le coach Tolé.
Marseille 2-1.
2-1 pour Marseille. Vivien Boibonga.
1-0 Marseille.
1-0 pour l'Olympique de Marseille. Simon, voilà chef. On t'écoute.
But de Pipa Benedetto et but de Mathias Autret, ça m'arrange à MPG. Ou alors Samuel Grand Cyr.
Ah oui, ben on verra bien. Donc, et Abdel, Ahmed.
Un partout.
Et pour toi, Kamel.
Et avec toute la responsabilité qui m'incombe, je vais dire 3-0 pour Marseille.
3-0 pour l'Olympique de Marseille. Eh oui. Allez, moi, je me jette et j'irai plutôt un 2-0 pour l'Olympique de Marseille. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. À partir de 19h, lundi prochain. Voilà, vous l'aurez compris, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Et nous, on vous souhaite un magnifique week-end sur l'antenne de Beurre FM. Bye bye.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.